Hello, hello et bienvenue sur Maman Active, le podcast des femmes qui refusent de choisir entre ambition professionnelle et ambition maternelle. Si vous souhaitez vous sentir plus confiante, motivée, sereine et productive, tant au travail qu'à la maison, ce podcast est fait pour vous. Je suis Milady Ogier, une maman active de 4 garçons, et j'aide les mamans qui travaillent à harmoniser leurs objectifs professionnels avec la maternité. Dans ce podcast, je partage des stratégies et des méthodes pour vous aider à trouver cette harmonie sans y laisser votre peau et ainsi vous permettre de briller de mille feux. Car je suis convaincue que vous êtes née pour briller. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une invitée très spéciale. On l'accueille avec beaucoup de bienveillance parce que c'est sa première interview et je suis ravie qu'elle ait accepté de me faire cet honneur-là. Elle s'appelle Justine, c'est une maman active de 2 filles et vous allez voir, elle a un parcours super intéressant. Et dans ce premier épisode, nous allons parler en fait justement de son parcours, de son cheminement, des clés qu'elle a pu mettre en place pour se révéler à elle-même. Et dans une deuxième partie qui sera l'objet d'un nouvel épisode, nous parlerons de son activité. Parce qu'en fait, Justine, aujourd'hui, est coach pour les couples en détresse. Elle nous expliquera tout ça tout à l'heure. D'abord, commençons par accueillir Justine. Bonjour Justine.
Bonjour Milady.
Comment vas-tu?
Ça va super. Comme je t'ai dit, un peu excitée, un peu stressée, un peu tout mélangé.
C'est normal. Les premières fois, ça fait souvent cet effet-là. Quel que soit le domaine d'ailleurs.
Okay.
Alors, je vais commencer par une question toute simple que je pose souvent à mes invités. Si je te dis « maman active accomplie », comment ça résonne pour toi?
C'est une question très globale. « Maman active accomplie ». La première chose qui me vient, c'est « accomplie », pas tout à fait en fait. C'est un chemin pour moi, un chemin d'accomplissement. C'est un chemin, c'est une direction, c'est un cap, mais ce n'est pas forcément fait pour être atteint parce qu'une fois que c'est atteint, qu'est-ce qu'on fait en fait après? Ça y est, c'est accompli, bon bah, c'est quoi la suite? On s'ennuie, donc du coup, je pense que c'est plus un chemin, c'est ça qui me vient. Donc, je suis sur un chemin d'accomplissement, d'épanouissement personnel et en même temps, bah, du coup, je suis maman et donc ça engendre beaucoup, beaucoup... de moments de joie, et puis toutes les émotions désagréables qui vont avec, enfin, tout est mélangé, voilà.
De challenge peut-être.
Ouais, de challenge, donc je pense que c'est ça, c'est un chemin sur lequel il y a beaucoup de joie et de bonheur, et il y a aussi des challenges avec ces émotions désagréables. Et donc la direction, c'est l'accomplissement, l'épanouissement, et on est toujours sur ce chemin, en tout cas moi j'y suis toujours.
J'aime beaucoup ta compréhension, en fait, parce que c'est tout à fait ça. L'accomplissement est un processus, selon moi, et qui ne s'arrête jamais, finalement. Et j'ai envie de dire, c'est ça qui est bon, parce que ça ouvre le champ des possibles à l'infini, en fait. Mm-hmm. Et quand je parle d'accomplissement, de maman active accomplie, c'est justement ces mamans-là qui ont compris qu'être dans un processus et que d'avoir la capacité de s'arrêter et de regarder le chemin parcouru et d'en tirer les fruits nécessaires pour continuer à avancer vers qui elles sont, vers le sens qu'elles veulent donner à leur vie, pour moi, c'est ça, être accompli. Et aussi, finalement, continuer à avancer sans se soucier en permanence du regard de X ou Y. C'est aussi ça, l'accomplissement, tu vois. Mm-hmm. C'est aussi dire stop, dire ciao, dire non au fameux diktat sociétal dont je parle dans mon podcast. C'est tout ça, en fait, l'accomplissement. Et effectivement, tu as raison, c'est un chemin. Mmh. Tu as raison, c'est un processus. Et tu as totalement raison de dire que tu es toujours dans ce processus-là. Moi, pareil, tu sais ce que j'aime dire? J'aime dire que je suis dans l'amélioration continue de moi-même.
D'accord.
J'adore dire ça parce que c'est vraiment ce que je ressens, ouais. En fait. Mmh. Donc oui, non, on n'est pas figé. L'être humain n'est pas figé. L'être humain avance chaque jour un peu plus à condition de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Mm-hmm. Ben merci beaucoup pour ta vision de la maman active accomplie. Et du coup, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu, parce qu'ici, on est entre mamans actives, donc on parle forcément un petit peu de ce moment fatidique, comme j'aime dire, où on devient maman, mm-hmm. et où, qu'on le veuille ou non, ça change tout. Oui. Comment ça s'est passé pour toi? quand tu es devenue maman, qu'est-ce que ça a changé pour toi?
Bah, comme tu dis, ça change tout. Ça a tout changé. je me suis reconnectée à moi-même. Je ne veux pas dire que je suis devenue une autre personne. C'est plutôt je suis redevenue moi-même. Ça a été une totale reconnexion, pas instantanée. Ça a été encore une fois un processus. Mais c'était le démarrage, la naissance de ma première fille, Hortense, il y a 5 ans et demi. Ça a été un tsunami d'émotions, agréables et désagréables. Beaucoup de moments de résistance aussi, de résistance dans le sens où j'acceptais pas que ma vie change, que mon rythme change, que je puisse pas faire tout ce que je voulais. Et j'étais vraiment dans la résistance. Donc du coup, beaucoup de frustration, de douleur corporelle aussi, de maux, voilà. Et à un moment donné, j'ai complètement lâché. Je me suis dit, bon, bah écoute, maintenant, Justine, t'es maman, il va falloir accepter que ça change tout, mais vraiment tout. Et beaucoup de fusion au début. J'étais une maman très, très fusionnelle qui s'est un peu oubliée au début. Je pense que j'ai fait ça par modèle. J'ai ma mère qui était beaucoup comme ça avec mon frère et moi, très dans la fusion, à s'oublier, à oublier ses propres besoins.
À se sacrifier, tu dirais ?
Peut-être pas à ce point-là, parce que si elle écoute le podcast, elle va me dire « je ne me suis pas sacrifiée, moi !» Non, mais elle ne s'est pas sacrifiée, moi non plus. On arrivait quand même à écouter nos besoins minimum, tu vois, les besoins de survie.
Donne-nous quelques exemples. Qu'est-ce que tu entends par là? Les besoins de survie, j'aime bien.
D'aller prendre sa douche, de manger, de dormir, voilà. Mais pendant un certain temps, je me suis oubliée dans le sens où je faisais plus de sport, je prenais plus de temps rien que pour moi toute seule, alors que c'est hyper important pour moi, en tout cas, de le faire. Mais ça, c'est venu plus tard, ça. J'ai vécu pendant... plusieurs années comme ça dans la fusion, et c'est venu plus tard ce besoin de reconnexion à moi-même. Enfin, ce besoin de reconnexion à moi-même, il est arrivé avant, parce que c'est avec elle que j'ai reconnecté à qui j'étais, mm-hmm. et j'ai commencé. Et puis après, le fait de revenir à mes propres besoins et arrêter de m'oublier, c'est venu plus tard. Voilà, dans la chronologie des choses. Donc, beaucoup de fusion et beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements, mais Justine, qu'est-ce que tu fais dans ta vie actuelle là? C'était pas métro, boulot, dodo, mais c'était voiture, boulot et dodo et enfant, donc du coup qui se rajoutait, et plus du tout de moments pour moi, et puis que du travail, et puis un travail qui m'intéressait pas tant que ça, dans lequel oui j'étais douée, oui ça marchait bien, je cochais toutes les cases, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas ça la vie, je suis pas heureuse, c'est ça l'exemple que je vais donner à ma fille? Non, c'est pas possible, c'était le début d'un grand questionnement.
Eh bien écoute, je vais rebondir là-dessus, du coup, parce qu'ici on parle à la fois d'ambition maternelle et d'ambition professionnelle. Mmh. Donc du coup, en fait, cette maternité t'a permis de mettre le doigt sur une vie professionnelle qui ne te correspondait plus, si je comprends bien, c'est ça ?
Exactement, exactement. En fait, je le savais, mais je me voilais la face. Et le fait de devenir maman, ça m'a fait ouvrir les yeux, quoi. Je me suis dit, non, c'est plus possible, tu peux plus continuer comme ça. Et puis, j'avais plus envie d'aller au travail, j'avais envie d'être tout le temps avec ma fille. Je me disais, mais tu vas dans un travail, tu te plais pas ? Tu laisses garder ta fille, enfin, c'est peut-être plus du tout aligné et en accord avec mes valeurs de laisser garder mon enfant, de faire garder mon enfant et d'aller dans un travail qui ne me plaisait pas, où je ne me sentais pas utile, que je trouvais totalement inutile. Je me disais, mais ça rime à ça la vie, c'est pas possible. C'est pas possible.
Et est-ce qu'il y a eu au moment où tu as eu cette prise de conscience, est-ce qu'il y a eu des peurs, des craintes qui se sont finalement imposées à toi à ce moment-là? Si oui, lesquelles et comment les as-tu gérées à ce moment-là, mmh. justement ?
Ouais. Ah bah oui. Bah oui, oui, oui. Carrément, j'étais bourrée de peur, de blocage, de croyances. Qui me disaient, tu dois rester là où tu es. T'as vu, t'as fait des études pour faire ce truc-là. Si tu quittes, tu vas plus avoir d'argent. T'as ta maison à payer, t'as plein de charges. Justine, ne fais pas ça. Et qu'est-ce que vont penser les autres ? La grande question, le regard de l'autre, c'était horrible comment j'étais influencée à l'époque. Oui. Mais c'était comme ça, enfin, je suis passée par là, c'était mon chemin. Et comment j'ai fait ? On va dire que je n'ai pas vraiment géré mes peurs. C'est la vie, en fait, qui m'a mis des grosses claques pour me réveiller.
Ah oui.
Ouais, en fait, j'étais plutôt à faire l'autruche. Non, j'ai pas envie, j'ai peur et tout. Et au final, il y a eu certains événements dans ma vie professionnelle qui m'ont obligée à sortir de ma zone de confort, qui m'ont obligée à faire face à mes peurs et à y aller quand même. Donc, du coup, en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est que la vie, elle nous aime et l'univers, il est là pour nous et il nous met des claques. Ça peut être des fois très douloureux, très violent, mais c'est pour notre bien. Et je remercie d'avoir vécu ces challenges parce que du coup, ça m'a fait bouger de cet endroit qui ne me correspondait pas pour aller vers ce que je fais aujourd'hui.
Ah, super.
Donc, j'ai pas vraiment, à l'époque, j'ai pas vraiment géré les peurs. Maintenant, je sais comment faire,
oui.
Mais à l'époque, je savais pas.
Tu as affronté ce qui se présentait et tu l'as vu comme un signe et tu y es allé en fait.
Ouais. Ouais, ouais.
Et du coup, ce que j'aimerais te demander par rapport à cette étape-là, mais déjà, c'était quoi ton métier ? Parce que tu me dis, tu as fait de longues études, tu cochais toutes les cases, entre guillemets. Et du coup, c'était quoi que tu faisais comme métier ? Ton ancienne vie, c'était quoi à cette époque-là ?
Bah, mon ancienne vie, j'avais lutté pendant mes études, entre guillemets, parce que à la fin, j'avais plus envie. Et il y avait des signes, comme tu dis, il y avait des signes qui disaient « Justine, arrête, j'ai failli pas avoir ma dernière année. Il a fallu que je refasse un stage pour avoir ma dernière année. » J'avais fait un master, donc un bac plus 5, dans l'audit, la comptabilité, le contrôle de gestion. Et la dernière année, c'était vraiment le signe qu'il fallait que j'arrête. Mais il y a mes parents qui sont arrivés pour me dire « Allez, raccroche le wagon, retourne dans le train, lâche pas, t'es bientôt à la fin. » Et donc, du coup, j'ai continué pour après me lancer dans une carrière d'audit financier. Donc, pour celles et ceux qui connaissent, je travaillais dans un cabinet d'audit légal, donc dans un Big Four. Donc, ambiance pourrie, horaire pourri, manager pourri.
Ah là là, je connais ce secteur-là parce que déjà, j'ai beaucoup de mamans actives qui sont dans l'audit finance et dans des grands cabinets notamment. J'en ai coaché quelques-unes. Ouais. Et effectivement, c'est pas évident en termes de qualité de vie au travail. Il y a encore du boulot, ouais. Effectivement.
Non, c'était... Je me suis lancée...
Et notamment pour les femmes.
Ouais. Je me suis lancée dans un truc. Enfin, le pire truc qui pouvait m'arriver, c'était ça, quoi. Vraiment, c'était pas du tout en accord avec mes valeurs. D'ailleurs, j'étais un peu la rebelle à l'époque parce que je finissais plus tôt. J'avais pas envie de faire des heures pour faire des heures, faire du présentiel pour faire du présentiel. Enfin, j'étais pas du tout en accord avec leurs valeurs et j'étais vraiment en dehors du système. Et donc, je suis pas restée longtemps, mais je suis restée dans cet environnement quand même parce que j'ai quitté. Mais après, pour aller dans l'audit interne, donc dans une entreprise, là, cette fois-ci, ne plus passer d'entreprise en entreprise, mais d'avoir une entreprise à moi, entre guillemets, où j'étais salariée et où j'étais responsable d'un service d'audit interne. Donc là, j'ai créé un service, j'ai managé des gens et ça, j'adorais. Donc, ça m'a fait tenir parce que j'étais dans le relationnel, dans le management et ça, j'adorais vraiment. Mais donc, à un moment donné, même ça ne me tenait plus. Même le management, ça ne me tenait plus. J'avais besoin de partir. J'étais plus à ma place. Enfin, j'y avais jamais été, en fait, hein, à ma place.
Ça, c'est souvent ce qui arrive quand on ne voit pas les signes et qu'on n'est pas prêt, en fait, à les voir plutôt. Qu'on n'est pas prêt à les voir et à les suivre. Et on est toutes passées par là, hein, en tout cas. Clairement, ça demande quand même un certain travail sur soi pour être capable de percevoir les signes au moment où on nous les envoie, en fait. Où l'univers, comme tu disais tout à l'heure, nous les envoie. Ouais. Et donc, du coup, toi, au moment où tu as affronté ça et que tu t'es challengée, finalement, pour surmonter tes peurs, sans vraiment encore les identifier, cependant, mais quand même, tu y es allée et tu as décidé que ce n'était pas pour toi et tu as décidé de changer de voie. Comment as-tu passé ce cap-là et qu'as-tu mis en place ? Quelles sont les clés que tu pourrais partager aujourd'hui avec des auditrices pour celles qui, par exemple, auraient vécu la même situation que toi ou sont en train de la vivre et n'arrivent pas à se dire « c'est pas fait pour moi, je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau, ça ne correspond pas à mes valeurs, ça ne correspond pas à la vie que j'ai envie de vivre », mais qui n'arrivent pas à passer le cap de se dire « il y a peut-être autre chose pour moi, plus alignée avec qui je suis ». Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme clés qui t'ont été utiles à toi pour faire cette transition professionnelle et ce changement de vie ?
Eh bien, il y a une question que je me répétais souvent et qui me disait, mais comment tu vas te sentir ? C'est pas très fun, mais bon. Comment tu vas te sentir sur ton lit de mort ? Est-ce que tu seras heureuse et fière de toi, de ce que tu as accompli ? Est-ce que tu vas laisser une trace de ton passage ? Est-ce que tu auras eu une belle vie? Qu'est-ce que tu vas te dire? Et si la réponse c'était non, c'était que j'étais pas au bon endroit. Jusqu'à ce qu'enfin je me dise, ah oui, ça y est, je sens que je suis être fière de moi et là je sens que je suis au bon endroit. Dès que je peux répondre à cette question par oui, c'est bon, je sens que j'ai vraiment contribué, j'ai donné ce que j'avais à donner, j'étais la personne que je devais être, c'est-à-dire moi-même, et dans l'authenticité, là je suis fière de moi et du chemin que j'ai accompli. Eh bien là, dès que je peux répondre à cette question par ça, ça veut dire que je suis au bon endroit. Donc je me posais cette question-là et puis je me disais aussi, mais enfin, je me parlais toute seule en fait, hein, beaucoup. Et souvent, je le faisais avec un cahier parce que moi, j'écris beaucoup et j'ai besoin d'écrire pour que ça sorte. En fait, je m'auto-coachais à l'époque. Hein, je me posais des questions, j'écrivais beaucoup ce qui sortait et je me disais, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Donc si, j'avais quand même identifié les peurs, mais je n'arrivais pas à les dépasser clairement comme maintenant je sais les dépasser. Mais j'identifiais les pleurs. Qu'est-ce qui m'empêche de passer ce cap-là? Qu'est-ce qui m'empêche de partir? J'identifiais et je me disais, mais tu te rends compte, Justine? Je me parlais à moi-même. Tu te rends compte, Justine, que ces peurs-là, bah déjà, tu n'es pas sûre que ce soit réel, que ça va vraiment arriver. Qu'est-ce qui te prouve que ça va vraiment arriver? Et si c'était autrement? Et si finalement, c'était l'épanouissement? Et finalement, si c'était l'abondance financière? Et pourquoi tout de suite, tu te dis... Bah non, ça va pas marcher. Bah non, tu vas pas avoir d'argent. Bah non, tu vas manquer. Bah non, tu vas te tromper. Et pourquoi tu ne dirais pas, bah non, tu vas réussir. Tu vas réussir et puis tu vas avoir plein d'argent et ça va bien fonctionner. Et puis tu vas te sentir heureuse et épanouie et tu vas contribuer. Et si tu pensais comme ça? Et donc, j'ai commencé à penser comme ça. Et dès que je pensais autrement, je me recadrais, je me redirigeais. Non, non, Justine, stop. Arrête de penser comme ça. Allez, on va y arriver. On va y arriver, ça va le faire. Tu vois? Voilà.
Oh, c'est super, superbe auto-coaching. L'auto-coaching, super important. C'est impossible d'avoir un coach 24 sur 24. Donc, même nous, les coachs, ben, nous sommes coachés, mais bon, notre coach n'est pas forcément avec nous 24 sur 24, n'est même pas avec nous 24 sur 24. Et ça, c'est une technique super utile. L'auto-coaching, c'est super important pour tout le monde, hein, même si vous n'êtes pas coach. Apprenez à vous auto-coacher. Vraiment, ça aide à passer des paliers, en fait, ouais. et à se recentrer, comme tu disais.
Ouais,
là, c'est une superbe clé que tu donnes. Merci beaucoup. Et donc, du coup, tu passes le cap. Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement, du coup, pour passer du secteur financier, audit interne, etc., à coaching pour les couples en détresse?
Bah, quand je passe le cap, je quitte l'entreprise où je suis. Donc là, la vie m'aide, l'univers m'aide, puisque du coup, j'ai une rupture conventionnelle. Parce que j'ai une grosse, grosse, grosse embrouille avec mon manager de l'époque. C'est ça, la grosse claque que je me prends, qui me paraît violente, mais qui est super géniale finalement, parce que j'ai une rupture conventionnelle. Je peux avoir le chômage. En plus, à ce moment-là, juste avant d'avoir la rupture conventionnelle, j'apprends que je suis enceinte. Donc du coup, c'est en douceur que je pars, en fait, parce que je sais que je vais avoir du temps pour moi, pour mon congé maternité, pour mon enfant, pour mon deuxième enfant du coup. Et qu'après, je vais prendre le temps de me former dans ce que je veux faire, donc d'être dans le coaching. Donc, j'ai, suite à mon congé maternité, qui a duré plus longtemps puisque j'avais le temps,
tout à fait.
J'ai commencé une formation de coach professionnel, une certification de coach professionnel avec spécialisation en coaching de vie. Donc, je me suis lancée comme ça.
Ah, super. Et qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir cet univers-là?
Bah alors là, je me suis encore plus révélée à moi-même. Enfin, tous ces exercices, tous ces outils, le fait qu'entre personnes de la formation, on se coachait entre nous parce que c'était nécessaire. On devait aussi coacher des personnes à titre gratuit pour notre certification. Moi, toujours plus, hein, Justine, toujours plus. On était censé coacher une ou deux personnes. Moi, j'en avais pris trois. Voilà, donc je coachais trois personnes plus les exercices de coaching avec les autres coachs et j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même, j'ai appris à me connaître davantage. C'était vraiment la continuité de, je rentrais dans le développement personnel et je sentais vraiment que ça me collait la peau et plus j'avançais, plus je me disais ouais, c'est vraiment pour moi, j'adore. Enfin, j'avais de plus en plus d'énergie parce qu'il faut dire aussi que j'avais pas beaucoup d'énergie dans mon précédent métier parce que j'étais pas du tout alignée. Et le fait de faire quelque chose qui était aligné avec mes valeurs, avec ce que je suis venue faire ici, eh ben, j'avais de plus en plus d'énergie. Et ça, c'était l'extase pour moi. Je me disais, waouh, j'ai plein d'énergie, c'est génial.
Alors, petite question, tu confirmes que tu avais de plus en plus d'énergie malgré une deuxième fille qui, à l'époque, était encore en bas âge.
Tout à fait, ça n'a rien à voir.
Et qui ne faisait peut-être pas de ses nuits tout le temps, etc.
Oui, non, mais clairement. En plus, moi, j'ai allaité mes enfants très tard. Donc, la première n'a pas fait ses nuits avant 3 ans. Et la deuxième, bon, ça a été un peu différent, c'était 10 mois. Mais c'est quand même 10 mois. Il y en a qui galèrent un peu moins quand même. Mais ça,
tu sais, je suis contente d'entendre ça parce que pareil, j'ai pas dormi pendant 3 ans avec le premier parce que pareil, j'ai allaité longtemps. Jusqu'à 2 ans et demi, qu'en fait, quand je suis tombée enceinte du deuxième, je lui ai dit, mon chouchou, il faut laisser le sein de maman pour le petit frère ou la petite sœur. Et du coup, j'ai allaité super. Et bon, il n'a pas dormi pendant 3 ans. Donc, ça me fait plaisir. Je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. C'est trop bien.
Ouais, c'était une sacrée expérience. Et du coup, pour la deuxième, bah, c'est une autre personnalité, c'est une autre personne. Je l'ai allaité énormément aussi, très longtemps. Bon, bah après, on est une deuxième maman, hein. C'est pas du tout la même chose. On est moins stressée, moins angoissée. Enfin, en tout cas, c'est mon cas, je vais arrêter de dire « on ». J'étais moins stressée, moins angoissée. J'étais plus zen, plus calme. En plus, j'entamais des démarches pour être alignée professionnellement avec qui j'étais. Donc, tout ça, ça se ressent dans le comportement de l'enfant aussi. Donc, elle se sentait sûrement beaucoup plus sécurisée émotionnellement, ma deuxième. Donc, plus capable de dormir seule plus rapidement. Et donc, oui. Malgré tout ça, j'avais quand même 2 enfants en bas âge et qui pouvaient me prendre beaucoup d'énergie. D'ailleurs, ils me prenaient beaucoup d'énergie. Mais moi, j'avais un réservoir d'énergie qui grandissait parce que je faisais ce que je kiffe. Voilà.
Ah, c'est super. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Et du coup, j'aimerais bien revenir sur le fameux diktat sociétal qui est lié à ce que les gens pensent, n'est-ce pas? Tu te rappelles, on en parlait tout à l'heure.
Ouais.
Comment les gens ont-ils réagi quand tu as annoncé ton changement de carrière?
Alors, mes collègues au travail, celles qui étaient proches, mes collègues proches, ou alors mon équipe. Mais non, reste, s'il te plaît, ne t'en va pas, t'es faite pour ça. Ben oui, oui, j'étais très douée dans le management, oui, c'est vrai, oui. Mais on peut être très douée, mais sentir qu'il y a quelque chose qui nous appelle, autre chose qui nous appelle, voilà. Donc... beaucoup de gens qui voulaient me retenir et qui me disaient « non, reste, voilà », mais qui comprenaient aussi que j'avais besoin de partir. D'une autre personne aussi que j'étais très proche, j'ai senti qu'on s'éloignait parce que comme quelque chose de… Enfin, il n'y a pas eu ces mots de poser, mais moi, c'est mon ressenti. J'ai senti comme de la jalousie, de « elle s'en va, elle va faire quelque chose qui la fait vibrer et moi, je reste dans ce travail qui ne me fait pas vibrer et j'arrive pas à partir et elle, elle y arrive ». Voilà. Donc, juste un petit message pour les gens qui ressentent de la jalousie. Dites-vous, mais si elle, elle est capable, si lui, il est capable, ça veut dire que peut-être moi aussi. Et c'est plutôt aller chercher l'inspiration plutôt que la jalousie. Et on va plutôt, du coup, aller dans le positif et se dire, waouh, si cette personne, elle est capable, si au début, ça me titille, oh là là, ça, je me sens pas bien et tout, je ressens peut-être de l'envie, de la jalousie, de se dire, si je ressens quelque chose, si ça résonne en moi, ça veut dire que je suis capable aussi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui peut être développé et de se dire, au lieu d'être dans la jalousie, de passer à l'inspiration et de se dire, je peux y arriver aussi. Donc voilà, j'ai eu des personnes comme ça qui pouvaient, j'ai ressenti un peu de jalousie, on s'est un peu éloigné du coup. Moi, c'était plutôt mes parents, hein, que j'avais peur. Et finalement, bah, j'étais tellement déterminée et tellement confiante que ça a rejailli sur eux. Je sentais des fois des petites peurs parce que je ressens beaucoup d'émotions. Elles n'étaient pas exprimées, justement, ils se retenaient de les exprimer parce qu'ils sentaient que j'étais arrivée au bout et que j'étais prête et que j'étais hyper confiante.
Ils sentaient qu'ils n'allaient pas pouvoir te faire accrocher le wagon cette fois-ci, c'est ça?
Ouais, non, ouais, ça, c'était sûr. Sûr.
Après, ils l'ont accepté.
Oui, oui, complètement.
Ils n'ont pas essayé de te décourager.
Non, 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 non. Mais en fait, il n'y avait plus la place pour ça.
Parce que ce qui est super important quand on est dans un processus de changement, hein, quel qu'il soit, hein, que ce soit un changement pro, changement perso, etc., c'est justement l'environnement. Un environnement qui finalement soit stable et stabilisé par rapport au cheminement qu'on est en train de faire. Et si l'environnement n'est pas propice, eh bien, finalement, ça rajoute des obstacles au chemin qu'on est en train de parcourir. Et parfois, ça peut nous amener vers un échec par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai posé la question, pour savoir, à ce moment-là, quel environnement tu avais autour de toi, en fait, pour soutenir, en fait, ton projet. Parce que c'est très important aussi, ce soutien-là, quand on a un projet d'une telle envergure, en fait, hein, parce que ce n'est pas rien ce que tu as fait. Et d'ailleurs, bravo à toi, parce que très peu d'entre nous, aujourd'hui, ont ce courage-là. Et quand je parle de courage, c'est pas dans le sens de bravoure, super-héros. C'est dans le sens étymologique du terme, c'est d'agir avec cœur. C'est ça que ça veut dire, courage. Agir avec cœur. C'est ce que tu as fait. Tu as suivi ce que ton cœur te disait pour t'aligner par rapport à ce que tu savais qui était bon pour toi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens ? Comment tu te sens dans ton quotidien, dans ta nouvelle activité de coach ?
Je ressens toujours énormément d'énergie, de plus en plus. D'ailleurs, cette énergie, j'ai l'impression qu'elle grandit chaque jour. Plus de sérénité, de calme intérieur, plus de confiance. Voilà, j'arrive plus à être dans la gratitude, d'être dans l'instant présent, de voir tout ce que j'ai accompli, de me dire que c'est génial tout ce que je suis en train de vivre. Voilà. Mais après, ça ne m'a pas totalement changé non plus. Il m'arrive quand même d'avoir des moments de challenge. Notamment, ça vient souvent via les enfants. Les enfants sont enrhumés, sont fatigués, font des crises, voilà, ou se font mal, ou un souci à l'école, ou je ne sais quoi. Là, ça peut me refaire retomber dans des émotions désagréables. Et après, bon, bah, on est des êtres humains, je suis humaine. Et donc, je suis pas toujours. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours tout rose, tout beau, parce que ça y est, j'ai suivi ma voie et voilà. J'ai toujours des challenges. Sauf que maintenant, j'arrive vraiment à les traverser de manière de plus en plus rapide et fluide. J'arrive à comprendre ce qui se passe, quel est l'enseignement, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, et à revenir rapidement dans la gratitude. Voilà. Mais c'est sûr que j'ai toujours des challenges. Je voulais vraiment accentuer là-dessus. C'est pas toujours tout beau, tout rose. J'ai plein de trucs positifs, ça c'est sûr. Beaucoup plus d'énergie. Et j'adore ce que je fais. J'adore contribuer. Je me sens vraiment bien dans mon corps et dans ma tête. Mais j'ai aussi des challenges.
Bien sûr. Et c'est très important ce que tu dis. Et moi, je le dis souvent dans les lives que je fais dans un de mes groupes privés. Je leur dis, c'est pas parce que vous me voyez pleine d'énergie ou je viens vous aider, je vous apporte des ressources et des solutions que ça veut dire que pour moi, c'est simple tout le temps. Et je les invite vraiment à se faire accompagner. Et je leur dis, pas forcément par moi, hein, le but, c'est pas que ce soit moi. Trouver la personne avec laquelle vous vibrez, en fait. C'est super important, ça aussi, dans un accompagnement, d'avoir cette vibration en là qu'on ressent avec la personne qu'on a choisie. Voilà. Nous avons toutes des hauts et des bas. Et c'est aussi ça, la vie. Et c'est aussi pour ça que la vie, elle est belle. Parce que si la vie était linéaire, c'était tout le temps pareil, tout le temps super positif, fantastique, merveilleux, mais finalement, quelle saveur ça aurait ? Quel intérêt ça aurait ? Personnellement, à mes yeux, aucun. C'est justement le fait que ce soit pas linéaire, qu'on ait toutes nos hauts et nos bas, nos challenges, nos moments down, que ça permet d'avancer, ça permet de réaliser aussi bien qu'en fait, ouais, ça, c'est super dans ma vie. Ah, ça, c'est top. Et parce que justement, il y a moins top
exactement,
parfois.
Exactement, les contrastes. Ouais.
Voilà. Exactement, les contrastes, c'est super important. Et ce qui est important aussi dans ce que tu as partagé, c'est le fait qu'aujourd'hui, tu as les outils. Et ça, c'est essentiel. Et j'encourage toutes celles qui nous écoutent à chercher les outils. Parce que les moments où vous serez plus fatigué, où vous serez moins motivé, où vous allez vous sentir même presque déprimé, vous en aurez. Mais si vous avez les bons outils, eh bien, comme disait Justine, vous en sortirez de manière plus rapide de ces états-là qui ne vous plaisent pas et vous trouverez des solutions plus facilement. Si vous mettez en mode solution, les outils viendront à vous et tout va se mettre en place. Moi, je ne sais pas si tu l'as constaté, quand tu es en mode solution, mais vraiment, tout se met en place autour de toi pour te permettre d'avancer dans le sens où tu veux aller.
Quand on sort du mode victime et qu'on redevient acteur, quoi. Mais moi, j'ai remarqué aussi que c'est quand je lâche prise, parce que j'étais beaucoup dans le contrôle et dans la résistance. Donc, genre, il m'arrive des trucs comme si j'allais diriger la vie, l'univers, que c'était moi qui dirigeais tout. Non, je veux pas ça. Non, mais en fait, accueillir. Et quand j'ai commencé à apprendre à accueillir et que ça y est, j'accueillais, c'est-à-dire qu'il m'arrivait des choses et au lieu d'intervenir, des fois, je me disais, Justine, laisse faire, vois ce qui se passe. Laisse-toi traverser par les émotions désagréables déjà. Accueille-les, vois ce qui se passe, n'interviens pas. Et des fois, les choses s'arrangeaient comme par magie, par elles-mêmes, sans rien faire du tout. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait. Arrête de résister, arrête d'être dans le contrôle, arrête de faire de vouloir tout contrôler. Et lâche. Et ça m'a vraiment aidée.
Ah, le lâcher prise, c'est un vaste sujet pour les mamans actives. C'est tellement pas simple. Et puis quand on te dit, mais arrête, lâche prise, c'est comme dire à un enfant qui est en train de crier, arrête de crier. Ben, il va crier encore plus.
Oui.
Donc c'est vrai que ce n'est pas simple, mais
Ouais.
effectivement, il y a des méthodes, il y a des outils qui permettent d'accueillir en fait ce qui nous arrive et du coup d'aller dans le lâcher prise. Eh ben, écoute, c'est super. Et une dernière question pour cette première partie de notre échange. J'aimerais que
Oui.
ben, te demander quel est selon toi un piège. Enfin, selon toi, le piège qui empêche les mamans de réussir à vivre pleinement leurs ambitions sans s'oublier ni se
Oui, il y
sacrifier.
en a plusieurs, mais bon, il y en a un qui me vient quand même et qui me concernait, du coup. Et donc, bah, celles qui écoutent, si elles me ressemblent, ça va leur parler. Pendant longtemps, j'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide. Je sais tout faire toute seule parce que j'étais dans le contrôle. Et puis, si c'est moi qui fais, c'est mieux. Alors que ce soit avec les enfants, donc du coup, ne pas laisser la place aux parents, enfin, au papa ou aux grands-parents, voilà. Et ne pas vouloir d'aide, et que ce soit aussi dans ma vie professionnelle, pour le changement de carrière, pour aujourd'hui, je me fais coacher. Avant, j'avais cette résistance de j'ai pas besoin d'aide, moi. Et finalement, eh bien, dès que j'ai compris que j'étais comme tout le monde et que c'était bien aussi d'être aidée, que aider, ça veut pas dire je suis incapable, que aider, ça veut pas dire, enfin, que d'être aidée, ça veut pas dire je vais déranger. Aussi, j'avais cette croyance de si je demande de l'aide, je vais déranger. Si je demande de l'aide, ça veut dire que je suis nulle. Si je demande de l'aide, ça veut dire que je suis incapable, que je ne vais pas y arriver. Et dès que je suis sortie de cette croyance en me disant, mais si je demande de l'aide, ça veut dire que je sais demander de l'aide, ça veut dire que je fais preuve d'une certaine intelligence émotionnelle, eh ben, ça va aller plus vite, ça va aller plus loin, ça va être plus agréable, moins inconfortable. Et maintenant, je ne me vois pas avancer dans la vie sans avoir un coach ou un accompagnement à côté. Et c'est sur des sujets différents, sur des domaines différents. Mais maintenant, j'adore être accompagnée parce que c'est plus facile, c'est plus fluide, et puis on va plus loin et plus vite. Donc, je suis sortie de ça.
Exactement, on va plus loin et plus vite. Ah, c'est génial. C'est génial, j'aime beaucoup effectivement ce piège et c'est marrant que ce soit celui-là qui te soit venu. Il y en a plein, comme tu dis, mais effectivement, le piège de l'hyper-contrôle chez les mamans,
Ouais.
c'est quand même très répandu, vraiment. C'est très, très répandu.
Ouais.
Moi-même, j'étais à fond dans l'hyper-contrôle, vraiment. Et c'est ça aussi qui entraîne l'épuisement.
Tout à fait.
Mais je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Avec plaisir.
On va se retrouver pour un prochain épisode où on échangera sur ton activité qui m'intéresse grandement. Et je pense que mes auditrices aussi seront très intéressées de découvrir ce que tu fais. Donc, comme je le disais, tu es coach pour les couples en détresse, mais tu vas nous en parler plus longuement. Mais déjà, pour cet épisode-là, je te remercie beaucoup. J'ai vraiment apprécié échanger avec toi. Tu as donné beaucoup de clés, tu as partagé avec authenticité ton parcours et je suis certaine que ça va inspirer beaucoup de femmes qui nous écoutent.
Merci.
Merci encore à toi, Justine. À très vite.
Merci à toi, Milady. Merci.
Je remercie à nouveau Justine d'avoir partagé avec nous son parcours de maman active en toute authenticité, avec les épreuves et les challenges qu'elle a eu à surmonter, les clés qu'elle a trouvées sur son chemin, qu'elle a pu utiliser pour avancer vers le sens qu'elle souhaitait donner à son quotidien, à sa vie professionnelle et à sa vie de maman. Et je vous remercie également toutes d'avoir été avec nous, d'avoir été là, d'avoir écouté cet épisode de Maman Active. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait apporté de la valeur. Je vous invite à le partager autour de vous. Vous aiderez sans doute d'autres femmes à le découvrir plus facilement. Je vous dis à vendredi prochain et en attendant, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie.